Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Et bonjour Joël.
Et ben bonjour.
Les JO approchent. Youpi, on est super contentes. Surtout que comme c'est parti, c'est soit le remake de 1936 et on vous donnera 2-3 infos sur l'ambiance à l'époque, soit la traditionnelle fête des sponsors et des médailles à gogo avec une espèce de retour d'un chauvinisme primaire mais qui nous pousse quand même à pas voter pour les mauvaises personnes, hein ? On va voir dans cette émission comment le sport permet de clôturer cette saison radiophonique avec un condensé de tout ce qu'on a pu raconter dans les épisodes précédents.
Elodie, tu parles des JO. L'organisation de ce grand spectacle, cette flamme symbole des Jeux de 36, comme tu disais, de la montée du nazisme qui se balade de main en main. Tout cet argent dépensé, le nettoyage humain dans les villes, c'est pas une image du sport qu'on défend, nous. Hein. Pas non plus que les commentaires de matchs ou d'épreuves dans les différents championnats, écraser l'autre pour être le ou la meilleure, faire du sport comme faire la guerre, c'est pas pour nous, c'est pas dans notre émission. Les performances, le jeu, la compète, ouais, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'avoir un vocabulaire guerrier. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps que l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, définit l'activité physique, le sport, donc, comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. C'est vrai. Faire du sport, pour une grande majorité de femmes, c'est le cours de gym ou de yoga, souvent en groupe, ou alors avec l'assaut du quartier ou du village, ou alors en salle, à la place du repas du midi ou après le boulot, c'est le tour de vélo avec les copines ou toute seule, c'est la course, c'est la rando, c'est se bouger. Michel, un peu d'histoire ?
Quand de Coubertin a restauré la pratique olympique, il a mis en avant l'universalisme et le pacifisme qu'incarnaient soi-disant les Jeux olympiques. Mais il a également repris un autre aspect, l'exclusion des femmes. À Olympie, non seulement les concours sont interdits aux femmes, mais une femme qui ose entrer sur le stade olympique est condamnée à mort. Sauf à Sparte. À Sparte, les femmes ont le droit de faire du sport. Par exemple, la princesse Kiniska devient la première femme à remporter une course de char. Mais c'est uniquement parce qu'on pense que le sport permet aux femmes de faire des enfants forts et puissants pour les armées spartiates.
Et pour se mettre en selle, on vous propose un petit montage réalisé à partir d'archives INA, un condensé de propos misogynes et sexistes à l'encontre des femmes pratiquant un sport. Alors dans l'ordre, vous allez entendre un journaliste de télévision en 1965 qui s'adresse à la championne de natation Christine Caron, un médecin du sport qui partage la même année dans le même reportage son analyse sur les disciplines qui sied le mieux aux femmes, puis dans un autre reportage ensuite consacré aux footballeuses de l'OM en 77, vous entendrez les considérations d'un entraîneur de foot sur les footballeuses, et enfin en 1984, le cycliste Marc Madiot face à Gianni Longo.
Christine Caron, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la compétition pour les femmes ? Qu'est-ce que vous pensez de la compétition pour les femmes ?
Écoutez, pas pour maman, je suis fatiguée, je vais me rhabiller, j'ai froid.
Vous n'étiez pas très gracieuse tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a des spécialités qui s'adaptent plus facilement à la femme ?
Des spécialités, des sports ou des spécialités ?
Non, des disciplines sportives.
Ah, des disciplines sportives, moi, je verrais avant tout... certainement la gymnastique, c'est très beau. Hein. Je verrai certainement la natation, oui. Je verrai certainement l'athlétisme, mais oui, mais pour une élite, n'est-ce pas ? Car c'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas beau. Hein. Il faut que ça soit très beau.
C'est un sport qu'il faut laisser, je pense... aux garçons, et c'est un avis tout à fait personnel. Maintenant, il y a des filles que j'ai vues évoluer, notamment dans l'équipe de Reims, qui se débrouillent très très bien, mais elles sont juste à la limite entre le garçon et la fille. Donc, je pense qu'il faut les laisser, leur féminité, à ces jeunes filles, et laisser le football aux garçons.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football...
C'est charmant.
Non, mais c'est vrai. je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi
voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me plaît pas.
Moi, je n'ai pas d'accord.
J'aimerais savoir pourquoi un homme est plus joli sur un vélo qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir respecter.
Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel.
On ne peut pas dire.
Maintenant, si ça te plaît, t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien.
Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations.
Comment ?
Eh bien, sacré condensé, on comprend pourquoi les femmes ne se dirigeaient pas spontanément vers le sport avec des discours comme ça.
Et oui, l'accès au sport a en effet longtemps été refusé aux femmes sous prétexte qu'il les rendait inesthétiques. Une femme qui fait du sport, c'est moche. Et à la limite, si elles insistent vraiment pour faire du sport, ok, allons-y, pourquoi pas, mais des sports uniquement considérés comme esthétiquement beaux. Et aujourd'hui encore, la question de la féminité des sportifs perdure. Il faut notamment être sportive et féminine, alors féminine entre guillemets, selon les normes en vigueur. Pour trouver, donc être sportive et féminine, pour trouver grâce aux yeux des médias. On pense aussi aux jupettes et t-shirts ou débardeurs moulants imposés aux sportifs dans de nombreuses disciplines.
Depuis les années 80, le sport a toujours rimé avec apparence plutôt que performance pour les femmes. Si elles ont le droit de pratiquer un sport, c'est avec chic et élégance qu'il faut se vêtir. En 1874, celles qui jouaient au tennis portaient obligatoirement une robe longue et un corset, par exemple. De quoi être libre de ces mouvements, n'est-ce pas ? Au moins, leur tenue n'était pas aussi légère et sexualisante qu'aujourd'hui.
Et est-ce qu'à un moment donné, on imagine quand même des tenues un peu plus pratiques ?
En 1930, le short féminin voit le jour et devient la tenue idéale pour le confort sportif. En revanche, avec le temps, ce short s'est raccourci peu à peu et s'est décliné en mini-short. Les femmes doivent porter des tenues attractives pour les spectateurs, plus précisément les hommes. Quel bel exemple de sexisme.
Les femmes devraient avoir des shorts plus serrés pour créer une esthétique plus féminine et ainsi augmenter la popularité du sport.
C'est ce que déclarait le président de la FIFA, Sepp Blatter, en 2004. Par exemple, dans le tennis, la tradition veut que les joueuses portent obligatoirement du blanc, une couleur qui, en période de règles, est inadaptée. La joueuse de tennis, Quiven Zheng, avait elle-même exprimé le stress lié à la possibilité d'avoir ses règles en plein match. Mais les sportifs se rebellent et demandent qu'on les laisse s'habiller librement. C'est ce qu'a fait l'équipe de gymnastique allemande aux Jeux Olympiques. Les joueuses norvégiennes de beach handball ont écopé en 2021 d'une amende de 1500 euros par la Fédération européenne de handball sous prétexte qu'elles ont enfilé un short à la place d'un bikini ajusté et échancré.
Et alors, on en est où aujourd'hui ?
Malgré ces réactions, les athlètes continuent à briser les tabous. On pense à la tenniswoman Serena Williams en 2018. Cette championne avait arboré une combinaison moulante noire allant du cou à la cheville pour l'aider à surmonter ses problèmes physiologiques à la place d'une mini-jupe. Bien que les langues se délient de plus en plus, les discriminations et le sexisme sont encore très largement ancrés dans le monde sportif.
Le titre « Fitness » de Lizzo, allez voir le clip. Quand on parlait tout à l'heure des tenues et des corps imposés, vous verrez qu'on peut aussi voir les choses différemment. Vous êtes toujours sur Radio B avec nous dans l'émission « Il n'y a pas que le 8 mars ». On parle de sport et du travail de l'association Égaligone.
L'association Égaligone, c'est une association lyonnaise qui œuvre depuis plus de 10 ans pour lutter contre les stéréotypes de genre et développer l'égalité filles-garçons. C'est une asso qui conçoit des outils pédagogiques, elle forme des professionnels de la petite enfance, de l'éducation, de l'animation, des bénévoles, des professionnels dans les associations sportives, etc. etc. Alors le sport justement, en 2018, l'association a créé une super exposition qui s'appelle Égalisport pour sensibiliser aux discriminations dans le sport et proposer des pistes d'action concrètes. Cette expo a donné lieu à un énorme travail de recherche et de synthèse. Elle a été accompagnée par divers experts, expertes et universitaires et a fait l'objet de plus de 2 ans et demi de travail. Et cette expo et toutes les ressources associées à celle-ci, tout ça est accessible gratuitement en ligne sur le site internet de l'association. Allez y voir, c'est très très riche.
Et on retrouve un des sujets de notre émission d'octobre, l'école et le rôle qu'elle joue dans le déterminisme de genre, notamment sur la question de l'EPS, du sport.
Oui, en effet, l'un des panneaux de l'exposition Égalisport aborde la question de ce qu'on appelle les barèmes différenciés en EPS. Alors qu'est-ce que c'est ces barèmes différenciés ? Mais en fait, c'est ce système de notation en EPS, en éducation physique et sportive, où les filles obtiennent une meilleure note que les garçons pour une même performance. Et pour l'association Égaligone, ces barèmes sexués sont sans aucun doute une fausse bonne idée. Je les cite. L'usage de barèmes différenciés en athlétisme ou natation date de 1957. Ils sont envisagés à l'époque comme un principe de justice, en fait, dans la notation. Aujourd'hui, ces barèmes différenciés sont obligatoires pour certaines épreuves du baccalauréat et facultatifs pour les autres niveaux scolaires. Ce système véhicule, en réalité, le mythe du sexe faible et confirme l'idéologie d'une fragilité naturelle des filles, ce qui nuit à leur dépassement de soi, peut-on lire sur les panneaux de l'expo. On a interviewé Violaine Dutroux, fondatrice et responsable de l'association Égaligone, à ce sujet. Écoutons-la.
Autour de l'exposition et dans l'exposition, on aborde la question des barèmes différenciés à l'école. Et en fait, on a... fait une enquête avec l'Université Lyon 2 en psychologie sociale sur la façon dont les élèves, qui étaient donc en psychologie sociale, mais avaient vécu leur propre pratique sportive et si les barèmes différenciés avaient été utilisés dans leur trajectoire dans le secondaire. Et donc, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait à peu près la moitié des élèves qui n'avaient pas du tout... vécu ce type de pratique et par contre l'autre moitié complètement le rapport au corps qui est créé, le rapport à la pratique évidemment devient très genré quand on part du principe qu'il devrait y avoir des performances évidemment différentes entre le groupe de garçons et le groupe de filles alors même que les compétences acquises, les entraînements, les gabarits, les dispositions corporelles, etc., sont très différentes, très hétérogènes dans un groupe classe. Voilà. Donc en fait, on inculque des stéréotypes alors même qu'on est enseignant ou enseignante, et on inculque des stéréotypes dans la tête des élèves, on les reproduit et on les aggrave avec ce type de pratique. Dans l'ensemble du secondaire, maintenant, ce n'est pas du tout demandé. C'est une habitude, c'est un usage qui est repris et non questionné par beaucoup d'équipes éducatives qui s'appuient sur des poncifs et qui c'est très déstabilisant pour les élèves, hein, aussi bien pour les garçons qui n'arrivent pas à être dans le niveau de performance requis que pour les filles qu'on prend d'office pour des personnes qui ne sont pas capables.
Et or, comme le rappelle Violaine Dutroux, la pratique sportive à l'école est censée développer l'estime de soi avant tout. C'est ça l'objectif de la pratique sportive à l'école. Donc, dans ce cadre-là, les barèmes différenciés en fonction du sexe sont, d'un point de vue pédagogique, une pratique aberrante. L'enjeu, souligne Violaine, c'est de diffuser les travaux de recherche auprès des enseignants pour modifier les pratiques des professionnels. On préférera donc au barème différencié en fonction du sexe un barème par exemple de progression individuelle qui évite la bicatégorisation et puis limite aussi la comparaison aux autres et la compétition. Et ce serait mieux pour tout le monde, garçon comme fille, elle le rappelle, parce qu'en réalité il y a plus d'écart également entre un sportif et un non-sportif qu'entre un sportif et une sportive par exemple.
En parallèle, on peut aussi évoquer la question des représentations. Aujourd'hui, si on fait un sondage dans la rue, très peu de personnes peuvent citer des sportives. Pourtant, il en existe des femmes sportives et depuis toujours. Par exemple, si je vous dis Maryse Bastier.
Maryse Bastier, pionnière de l'aviation, féministe et espionne. En 1929, elle établit un record du monde féminin. Aux commandes de son avion, elle vole 26 heures 44 minutes. Match signale l'exploit en des termes pleins de condescendance machiste. Fine, gracile, jolie, Maryse Bastier ne paraît pas à première vue être marquée pour des destins dangereux et des besognes hasardeuses. Peut-être, en plongeant au plus profondément dans ses yeux, y verrait-on cette flamme de l'audace et ce trouble du rêve. Mais on ne plonge pas dans les yeux de Maryse, qui sait sourire et demeure femme.
Eh bien...
Magnifique.
Et si je dis Marinette Pichon ?
Marinette Pichon, c'est la retraitée du football international la plus reconnue. La première en presque tout dans ses disciplines. La meilleure buteuse de l'équipe de France, avec 81 buts en 112 sélections. À 44 ans, Marinette Pichon a raccroché ses crampons.
Christine Caron,
championne de natation.
Jeannie Longo,
le cyclisme bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure.
Serena et Venus Williams.
Tenniswoman, élevées par un père très dur pour devenir des championnes. Un film à voir sur leur parcours, la méthode William.
Moi, je me souviens de Surya Bonaly.
Surya, 9 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde senior. Un palmarès à faire rêver plus d'une patineuse. Et pourtant, celle qui a toujours couru sous les couleurs françaises n'est jamais parvenue à se hisser sur le toit du monde, ni à compléter ce palmarès d'une médaille olympique, alors qu'elle a participé à 3 éditions. Est-ce lié à son style, son caractère, son côté rebelle ?
Un extrait du journal de France 2, archives INA au championnat du monde au Japon en 1994.
Mais avant d'entamer ce tour d'Europe, d'une Europe qui doute, partons pour l'Extrême-Orient, pour le Japon, où notre Surya nationale a versé une larme. Elle espérait l'or au championnat du monde de patinage artistique. Elle n'a eu que l'argent et a montré son dépit avec un certain cran. François Cornet.
Surya vient d'entendre son nom. La marche de la médaille d'or est trop haute pour elle. Des larmes amères perlent dans ses yeux. Coup de théâtre. Au pied du podium, Surya refuse de monter sur la deuxième marche. L'officiel chargé de lui remettre la médaille d'argent est décontenancé. Les bravos de la foule se transforment en sifflets. Finalement, Surya fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte. L'incident est clos, ou presque. L'émotion, sans doute aussi la déception, l'emportent à nouveau. Surya ne gardera que 12 secondes au cou sa médaille d'argent. C'est alors que Yuka Sato, la belle patineuse japonaise, médaille d'or, vole au secours de Surya, qui timidement, comme si cette première marche de championne du monde lui était toujours interdite, essaie malgré tout de garder l'esprit sportif. Surya, une saute d'humeur à Shiba au Japon, mais les patineuses ont aussi un cœur, et il peut parfois être malheureux.
Bravo. Et on note les commentaires sexistes au passage, hein. C'est pas fini pour Surya Bonaly, hein. Ça s'arrête pas en 94.
Dernier coup d'éclat en 1998, aux Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Malgré une blessure au tendon d'Achille, à peine guérie, la patineuse participe à ses derniers Jeux. Elle entre sur la glace et réalise un salto arrière, un backflip, une figure interdite qui allait la sanctionner. Le public ne lui en a pas tenu rigueur, bien au contraire. Mais les juges, si. Elle a voulu dire au revoir avec panache. Elle savait que c'était sa dernière compétition. Elle aura essayé de faire bouger les choses, dénonçant le racisme dont elle a été victime toute sa carrière. Après ce coup d'éclat, elle arrête définitivement la compétition.
Globalement, on se rend compte que la représentation des sportives est minime comparée à celle des hommes. Comme pour les femmes dans l'histoire, on a quelques noms qui surgissent, mais très peu comparés à l'engagement des femmes dans le sport depuis des années. L'ancienne joueuse de handball, première femme présidente d'un club de sport professionnel masculin, sociologue et autrice de l'essai du sexisme dans le sport, Béatrice Barbus, explique que les femmes sont bien là. C'est face à la commission parlementaire réunie autour des défaillances dans le sport.
Les femmes sont bien présentes, elles sont là simplement. Dans le milieu sportif, bien souvent, on ne les voit pas, elles sont invisibles. Moi, je me rappelle en effet que lorsque, comme je le raconte dans mon livre, que lorsque je suis devenue présidente du club de l'USIV Handball, il y avait une femme qui était derrière la buvette. Donc ça, ce sont les bénévoles un petit peu, et sans mépris de ma part, bien évidemment, les bénévoles dits d'exécution, ceux qui tiennent les buvettes, ceux qui lavent les maillots, ceux qui accompagnent éventuellement les équipes, qui sont à distinguer des bénévoles dirigeants. Eh bien, elle était bénévole, on va dire, d'exécution. Et en parlant avec elle, je me suis aperçu qu'elle dirigeait un restaurant dont elle était propriétaire, qu'elle avait été professeure d'anglais, donc elle parlait anglais couramment, et qu'elle était en plus comptable. Donc voilà, je l'ai mis vice-présidente. Donc les femmes existent, elles sont bien présentes, mais on ne les voit pas. Et on passe à côté d'elles sans jamais discuter de choses essentielles, comme si les affaires sportives ne les intéressaient pas, n'y connaissaient rien, et donc elles ne pourraient pas être compétentes.
Ça, c'est une bonne dédicace à toutes mes copines qui scoltinent les matchs de foot de leurs enfants, s'occupent des trajets, de laver les maillots de l'équipe au complet, de préparer les sandwichs, faire chauffer les frites. On pense à vous, les filles. Et cette question de la non-représentation des femmes dans le sport, elle va encore plus loin que ça. En 2022, la loi Égalité a donné pour objectif aux clubs sportifs la parité absolue et une limite de mandat pour les dirigeants. En 2024, donc 2 ans plus tard, on est à environ 34% de femmes dirigeantes. Béatrice Barbus explique même que certains clubs ont mis en place des stratégies de contournement en déplaçant les instances de décision ailleurs. En gros, sur le papier, on a bien une femme présidente du club, mais que sur le papier.
Oui, mais on a quand même plus de femmes dans le sport, à la télé par exemple. Il y a plus de speakerines. Bon, il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est que je voulais regarder dans l'équipe si il y avait autant de femmes que d'hommes qui écrivaient.
Alors, dans les médias télé, pas tant que ça. Hein. Vu qu'on part de zéro, on a peut-être cette impression qu'effectivement, il y a plus de sport à la télé. Mais en janvier 2023, l'ARCOM, donc l'ancien CSA, publie un rapport qui analyse les retransmissions sportives féminines entre 2018 et 2021. Et à votre avis, c'est quoi le pourcentage de sport féminin à la télé? Joël, toi, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus.
Non, pas beaucoup plus. Il y en a maintenant, je ne sais pas, j'ai aucune idée.
Une idée, Michel?
Aucune idée.
Natacha?
J'ai la réponse sous les yeux.
Et là, c'est 5%. 5% seulement du sport que l'on voit à la télé, c'est du sport féminin. Donc le côté positif, hein, c'est qu'on a augmenté de 50% la part de diffusion.
Ah,
si vous faites bien le calcul, ça veut dire qu'en 2018, on était à 2,5%. Wouhouhou ! Bon, on part de très très loin. Hein. On peut espérer qu'en 2025, on sera à 10%. Cette question de la médiatisation, en fait, elle est hyper importante. C'est pour ça que j'avais envie de me concentrer là-dessus. Et Béatrice Barbus, elle l'explique très bien à la commission parlementaire.
C'est un véritable problème, cette question de la médiatisation, parce que c'est cette visibilité qui permet au sport féminin d'abord d'attirer, bien évidemment, des sponsors et donc d'avoir des retours sur investissement pour les entreprises qui s'investissent en milieu sportif féminin. Et donc, ça permet d'engranger des finances et ça permet de structurer davantage, non seulement le sport de haut niveau, mais aussi en bas, puisqu'en général, quand il s'agit par exemple de sport collectif, mais c'est pareil pour les sports individuels, quand dans un club, il y a des garçons et des filles, si au haut niveau, le sport, l'équipe féminine ou les filles rapportent des résultats, rapportent donc des financements, ben, ça permet de structurer en bas davantage les clubs et surtout, ça permet que des petites filles et des jeunes femmes s'identifient éventuellement à ces sportifs de haut niveau, ces sportifs professionnels pour certaines, et leur donnent envie de faire du sport, de passer le cap. Et en tout cas, ça leur montre que l'accessibilité à tous les sports aujourd'hui est quasiment possible pour toutes les petites filles. Donc, cette question de la médiatisation, elle n'est pas si anodine que ça. Et là, de ce point de vue, ben, on constate que il faut soit que la ministre intervienne, soit qu'il y ait donc du lobby, parce que la plupart du temps, et ça rapporte bien évidemment pas autant, les droits télévisions, des télévisuels sont très en deçà de ce qu'ils peuvent être pour le sport masculin, qui a 50 ans, voire un siècle d'avance. Donc de ce point de vue-là, j'essaye de le dire, même si mes propos sont peut-être un peu durs, mais il y a une véritable dette d'opportunités de la part du sport féminin, une dette d'opportunité pardon, de la part du sport masculin à l'égard du sport féminin. Le sport masculin a pu profiter pendant un siècle d'un quasi-monopole de visibilité et donc a pu attirer évidemment beaucoup de sources de financement qui aujourd'hui, ben, de fait, sont pris et donc ne vont pas vers le sport féminin. Donc cette question du sport féminin, de la médiatisation, pardon, n'est pas aussi anodine qu'on le pense parce que c'est quelque part le nerf de la guerre.
La médiatisation, l'argent, gagner sa vie ou non par le sport, ce sont des thèmes abordés ce mois-ci dans une autre émission de Radio B. Je vous invite à aller écouter Le nez dans le guidon, l'émission consacrée au cyclisme par Alain Rude. Il interviewe la championne du monde de cyclisme junior 96, Anita Neveu, et elle parle très bien de toutes ces questions.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien.
Vous êtes toujours dans Y'a pas que le 8 mars sur Radio B. Notre émission est consacrée au sport. Natacha, tu as rencontré Violaine Dutrot pour l'association Égaligone autour d'une exposition sur le sport où l'on couvre les corps humains, mais pas trop parce qu'il faut bien se rincer l'œil, où on veut montrer qu'on accepte tout le monde, mais pas trop non plus, faudrait pas qu'on perde notre place, et où on retrouve la présence de la médecine à outrance, notamment quand elle est au service du patriarcat. Et c'est comme ça qu'on décide de mener l'enquête lorsque des femmes performent trop, qu'elles deviennent presque aussi fortes que les hommes. On a appelé ça les tests de féminité.
Oui, tests de féminité entre guillemets. Et ces tests sont considérés par l'association Égaligone dans l'exposition qu'on évoque comme une atteinte aux droits humains. Elles expliquent. Dès la Seconde Guerre mondiale, des certificats de féminité sont demandés aux compétitrices. En 1966, la Fédération internationale d'athlétisme instaure un test de féminité consistant en un examen gynécologique. Aujourd'hui encore, les athlètes concourant dans la catégorie « femmes » entre guillemets doivent se soumettre à des tests et traitements en cas d'écart par rapport à des performances habituelles. Anaïs Bouillon, socio-historienne, démontre l'incohérence de ces tests. On interdit, en fait, dit-elle, quelque chose de naturel, comme si on interdisait les trop grands au basket. Elle ajoute que ce sont les performances féminines qui posent problème, toujours potentiellement suspectes, et il n'est ainsi jamais question de vérifier la masculinité d'un sportif. Retrouvons donc Violaine Dutrot de l'association Égaligone nous expliquer comment fonctionnent ces tests et ce qu'ils produisent.
Plusieurs niveaux, il y a de l'observation physique, des organes génitaux en gros. Puis, il y a des tests hormonaux, sanguins, etc., pour déterminer à quel point elles sont femmes du point de vue d'une biologie bicatégorielle qui n'est même pas valable sur le plan scientifique, puisque il y a toute une population entre ce qu'on pense être complètement un homme et ce qu'on pense complètement être une femme, puisqu'il y a 1,7% de personnes intersexes et qu'il y a plusieurs sexes en réalité, entre le sexe chromosomique, le sexe gonadique, les organes génitaux effectivement, mais en fait on a plusieurs façons, et des femmes du coup découvrent à l'occasion de ces tests qu'elles seraient quelque part en train de tricher et qu'elles ne sont pas complètement des femmes et que du coup elles devraient être exclues. Et en fait, on va ostraciser finalement une femme qui aurait des résultats sportifs supérieurs aux hommes. Parce que du coup, elle ne peut pas être une femme. Quelque chose qui est très peu connu, puisque les tests de féminité, alors qu'ils sont encore dans les règlements intérieurs des fédérations, il suffit d'aller regarder sur Internet, la Fédération française de football oblige les femmes à faire des tests de féminité. Il n'y a même pas de mots.
Une lecture à ce sujet ?
Oui, Violette Maurice à abattre par tous les moyens. C'est une BD qui est écrite par Bernard Gallic et Chris, dessinée par Javier Rey, grâce au travail de recherche historique de Marie Jobonnet. C'est édité chez Futuropolis. Alors, on disait de cette Violette qu'elle était audacieuse, infatigable, d'une absolue confiance en elle-même, d'une indifférence totale à ce que peuvent penser hommes et femmes. Elle mène sa vie comme elle l'entend, tout entière dévouée au sport. C'est une femme qui vit dans les années 20. Sportive de très haut niveau, elle accumule les victoires. Alors c'est incroyable parce que cette fille, elle commence, elle fait de la compète, c'est toujours de la compète. Alors d'abord de nage, après de boxe, d'athlétisme, football, de vélo. Après, elle fait des sports mécaniques en pleine expansion, la moto, l'automobile. C'est vraiment une femme qui est hors norme sur les terrains de sport et dans sa vie personnelle aussi. Pas que le sport, puisque à un moment, elle se produit aussi sur scène et qu'elle chante. Voilà, c'est bon, habillée en homme. Donc effectivement, c'est bien en lien avec ce qui vient d'être dit. Pionnière, car c'est tout le début du football féminin. Elle joue à l'Olympique de Paris. Violette joue demi-centre, avant-centre, arrière-trois. Donc, elle fait tout, cette fille. Pionnière en course automobile en 22, victoire au Bol d'Or.
Donc, elle concourt avec des hommes.
Elle concourt aussi avec des hommes. Et à certains moments, oui, c'est comme si c'était pas ouvert aux femmes. Donc, elle se fait, des fois, une fois, elle se fait passer pour un mec. Elle est très populaire et elle arrive à faire sa place dans un monde exclusivement masculin grâce à une fille qui s'appelle Alice Milla, qui était athlète également, présidente de la Fédération française sportive de France. Alors c'est une BD vraiment qui est très instructive sur cette femme, sur le monde du sport en ce début du XXe siècle, sur le combat des femmes aussi. Marie Jobonnet, qui a donné vraiment de la matière, elle est historienne. Et elle dit que Violette Maurice, elle transgresse les normes du genre qui garantissent la paix des sexes. Et Violette se voit interdite des JO déjà en 1928.
Et les années passent, on est maintenant en 2024, un siècle plus tard, et pourtant...
Et les mêmes choses se reproduisent. Et là, le cas de Caster Semenya, médaille d'or du 800 mètres au championnat du monde de Berlin en août 2009, une rumeur. Et si c'était un homme ? Ça y est, la machine est lancée, on publie des tests de féminité dont tu parlais là, des tests qu'elle a dû passer.
Faire prendre des hormones aux athlètes femmes pour faire baisser leur taux de testostérone, quelle est votre réaction à cette décision de la Fédération internationale d'athlétisme ?
Alors je suis tout simplement révoltée, bouleversée, puisque ce qu'on peut voir dans le communiqué du tribunal arbitral du sport fait aux médias ce matin, c'est que le TAS autorise la Fédération internationale, le tribunal arbitral du sport, autorise la Fédération internationale d'athlétisme de mettre en place un règlement sexiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui excelle en athlétisme doit réguler ses taux hormonaux, comme c'est le cas pour Caster Semenya.
Donc c'est une discrimination à l'excellence.
Absolument, c'est une discrimination. Et d'ailleurs, ce qui est assez ahurissant, c'est que le tribunal arbitral du sport l'indique lui-même, que c'est une mesure discriminatoire.
Mais nécessaire.
Voilà, ils disent bien qu'il est question de protéger les athlètes féminines, mais qu'en est-il de la protection de Caster Semenya ou des athlètes hyperandrogènes ?
Et le tribunal qui précise que c'est dans le cadre de certaines disciplines, du 400 mètres au 1000 Vous trouvez que c'est une justification valable ?
Absolument pas, et on voit bien qu'ici, c'est Caster Semenya qui est clairement visée, parce que c'est une athlète hors norme, effectivement, comme vous l'avez dit dans le documentaire, dans le reportage, exceptionnelle, et donc au même titre qu'un Usain Bolt, si vous voulez, et on ne veut pas que cette athlète féminine continue à exceller.
Et du coup, est-ce que ce n'est pas l'occasion de repenser les différentes catégories dans le domaine du sport ?
Alors, je pense que c'est un faux débat, parce qu'il est important de rappeler que Caster Semenya, par exemple, sur 800 mètres, court en 1 minute 55 secondes, et elle est très éloignée des performances masculines. Donc, si vous voulez, elle ne remet pas en cause la bicatégorisation sexuée chère au monde sportif, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le jour où peut-être une athlète féminine courra en 1 minute 40 et se rapprochera très dangereusement des performances masculines, on pourra interroger ces règlements autrement ou se poser d'autres questions. C'est un faux débat. Caster Semenya est une femme, et née femme, veut continuer à concourir chez les femmes et juste tout simplement à performer et exceller.
Anaïs Bouillon, merci. Je rappelle que vous êtes historienne, ancienne sportive et militante pour les femmes dans le sport.
C'est ça. S'il n'y avait pas de militantes, d'insolentes, d'ambitieuses, de surdouées, nous serions privés de la moitié du bonheur qui nous procure les plus belles émotions du sport. Par ces mots, c'est le Comité olympique des Jeux de Paris 2024 qui dit ça. Il rappelle l'importance de la pratique du sport par les femmes, mais traduit également la bataille qu'elles ont dû et doivent encore mener pour légitimer leur place dans le monde du sport. Dont acte, on espère que ces mots ne resteront pas que sur le papier.
Le sport qu'on va célébrer pendant plusieurs semaines cet été, c'est aussi un milieu violent pour les femmes, pour les minorités de genre, les enfants. Le MeToo Sport a commencé en 2020 suite aux révélations de la patineuse française Sarah Abitbol, violée par son entraîneur pendant des années. Aux États-Unis, c'est la gymnaste Simone Biles, 4 fois championne olympique, qui fait partie de la centaine de jeunes femmes agressées par Larry Nassar, le médecin de l'équipe nationale américaine. Les chiffres sont alarmants. Au 31 décembre 2021, la cellule du ministère des Sports chargée de traiter les signalements de violence recensait 655 personnes mises en cause dans 610 affaires, dont 89% concernent des faits de nature sexuelle. 84% des victimes sont mineures. Alors, les mots utilisés pour parler des violences sexistes et sexuelles dans le sport, omerta, écosystème, les sportifs et sportives victimes expliquent la difficulté de témoigner, un peu comme partout, mais encore plus difficile de se faire entendre dans la grande famille du sport. Et pourtant, des témoignages à lire et à entendre, des films aussi pour en parler.
Oui, en 2021, Charlène Favier a sorti un film qui s'appelle Slalom sur les milieux du ski.
Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici.
À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end.
Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là ?
Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
Vois le mec derrière toi ? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens.
Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein ? Tu vois, je te l'avais dit, hein ? Le travail paye. Une fusée. Championne de France. Hé, hey, tu te relèves, on dirait une gamine, là.
Bon, alors, comment ça se passe, l'entraînement ?
C'est la chouchoute, alors bon.
Qu'est-ce que tu fais ? Si c'était Fred, tu dirais quoi ?
Tu vois pas qu'il nous regarde, là ? T'as parlé à quelqu'un ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais de quoi je parle ?
Ouais, là, c'est ça. On vient d'entendre la bande-son du film Slalom de Charlène Favier, qui était sortie donc en 21. C'est l'histoire de Lise, qui a 15 ans, qui vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, et décide de tout miser sur cette nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lise s'investit à corps perdu, c'est le moins qu'on puisse dire. Physiquement et émotionnellement, elle enchaîne les succès, mais bascule aussi sous l'emprise absolue de Fred. Là, c'est le pouvoir des entraîneurs dont tu viens de parler, Élodie, là, il y a peu avant le film, là. Et j'ai trouvé aussi dans un petit bouquin qui s'appelle H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est édité par Actes Sud Art Édition. Et il y a donc dans ce livre 23 000 respirations, 86 400 secondes, 100 000 battements de cœur, 24 histoires vraies comme 24 heures qui ont été inspirées par 24 écrivaines internationales. Et là, H24, c'est Lola Lafont et il est 14 heures. Et le petit texte s'appelle « Je serai reine ». Le premier jour de stage, je t'appelle monsieur. Tu me reprends pas de chichi. On forme une équipe, une famille. J'ai acheté un carnet dans lequel je note ce que tu dis aux entraînements. Le troisième jour, tu me demandes mon âge. Tu aimes les chiffres, les grammes qu'il faut perdre, les centièmes de points que font une réception de double lutz. Tu aimes les 11 plus que les 15. Les filles de 15 ans, tu les traites de mémères et les lutteuses. Je suis la seule 11 du stage et tu dis que je serai reine si je me renforce. Tu dis qu'on va s'employer ensemble, main dans la main. Tu ta main sur la glace, tu rattrapes, me redresses, me sécurises. Tes mains m'applaudissent quand je réussis. Le soir, quand on éteint la lumière dans la chambre, que je partage avec une quinzaine, elles soupirent que j'ai trop de chance d'être la chouchoute. Trop de chance. Au téléphone, mes parents aussi agitent ma chance. Le stage n'est pas donné. C'est un sacrifice qu'ils ont consenti de faire et ils espèrent bien que j'en profite. Le quatrième matin, tu distribues le règlement des compétitions internationales. Les concurrentes ne doivent pas s'arrêter de patiner plus de 30 secondes sur les 15 minutes de programme. Il faut faire avec le point de côté, le cœur qui cogne, l'abduction qui brille, continuer quoi qu'il arrive. Dans mon carnet, je note, tu dis qu'il faut 90 secondes pour que le geste s'imprime aux fibres musculaires. Si ça ne fait pas mal, c'est qu'on n'a pas assez travaillé, tu dis. Je suis trop tendue, tu dis. J'inspire, j'expire, me détendre, penser à autre chose. J'ordonne à mes cuisses, à mon ventre de lâcher prise, d'obéir à tes ordres chuchotés. Tes doigts, surtout l'ongle du majeur qui m'érafle dedans et la salive sur tes doigts la première fois. Tu rentres dans ma chambre la nuit, la laine âcre d'épices et de viande grasse, ton dîner dans ma bouche, ton allaitement tape d'un coin à l'autre de mon silence. Au matin, quand je réussis une pirouette, tu dis que décidément je sais tout faire, tu me fais un clin d'œil. Au déjeuner, moi je vomis. Mon avenir me tend les bras, me dit mon père au téléphone, ce sont les tiens. Tu aimes les chiffres toujours. Dans le bureau de la juge hier, tu comptes. 25 pour porter plainte, vraiment? Tu te souviens même plus, toi. C'est que madame la juge, j'en ai vu passer des gamines. Tu aimes les chiffres. Mais tu comprends mal. Moi, j'ouvre mon carnet à la page 20, dernier jour du stage 1990, cette page sur laquelle tu as signé et écrit à ma petite fiancée.
Et puis l'homophobie dans le sport, on pourrait y consacrer une émission entière. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'on connaît beaucoup de joueurs de foot ouvertement gays ou des rugbymen qui auraient fait leur coming out? Pourquoi, à votre avis? Bah, la réponse, elle est peut-être dans ces chiffres hein, d'une enquête Ipsos menée en 2022. Une personne sur deux fait état de réactions négatives de la part des sportifs, sportives, lorsque l'homosexualité ou la transidentité d'un nouveau ou d'une nouvelle venue est connue dans un sport collectif ou dans une fédération. Récemment, alors que les footballeurs de tous les clubs français étaient invités à porter un badge contre l'homophobie, des joueurs se sont fait remarquer pour avoir dissimulé ce badge, voire même tenu des propos homophobes au micro. Il y a encore du boulot, hein.
Oui, il y a encore du boulot. Que faire alors? Que faire pour promouvoir une éducation au sport égalitaire et non violente et une pratique sportive non genrée? Quelques pistes d'action sont proposées par Violaine Dutrot de l'association Égaligone qui nous accompagne depuis le début de cette émission.
Des pratiques enthousiasmantes à promouvoir. Donc, il y a des choses assez basiques sur le langage. Par exemple, citer systématiquement un sportif et une sportive dès qu'une telle citation est partagée avec les enfants. Lorsqu'une référence est faite à une compétition non mixte, préciser autant masculine que féminine, nommer évidemment les activités de façon neutre. Donc, par exemple, au lieu de dire un parcours du combattant, on va dire un parcours d'agilité. En fait, il faut dégenrer les appellations. C'est très important dès la petite enfance, en fait, pour pas qu'il y ait de connotation déjà genrée qui, du coup, va créer de l'autocensure chez les enfants. On va dire, par exemple, jeu d'adresse avec ballon. On va encourager et féliciter les enfants dans tous les domaines. Bon, là, c'est plus pour la petite enfance, mais c'est valable aussi pour le reste. On a aussi proposé aux filles comme aux garçons des vêtements adaptés pour le sport sans obligation de porter des jupes et des shorts courts. Voilà, tout ce qui est déjà... En fait, il faut revoir toutes les règles des fédérations sportives. Hein. C'est complètement injuste, complètement injuste. Débattre avec les enfants dès lors qu'une parole homophobe ou excluante est prononcée, parce qu'en fait, dans le sport, on est toujours en train de reproduire, surtout dans la compétition, il y a beaucoup de paroles homophobes, c'est très régulier ou sexiste, évidemment. Donc, tu joues comme une gonzesse. Enfin, il y a beaucoup de d'éléments de langage qui sont peu questionnés encore. On a des propositions sur l'espace dans l'école, des observations à faire avec les enfants, dans la ville aussi. Par exemple, les équipements sportifs qui sont... Parce qu'on sait aujourd'hui que l'usage des équipements sportifs financés par la ville va beaucoup plus bénéficier aux garçons. Enfin, les équipements vont beaucoup plus bénéficier aux garçons qu'aux filles. Donc, ça aussi, c'est un travail sur la façon de répartir l'argent public. Donc, le budget sensible au genre est une piste assez importante pour développer l'usage des pratiques sportives de tout type chez les femmes comme chez les hommes. Faut aussi s'étonner que peu de garçons soient présents dans certains loisirs, parce qu'en fait, on a souvent le regard inverse. C'est un peu comme la petite enfance, où on ne va pas trop pointer qu'il n'y a pas encore d'hommes dans la petite enfance. Bah, il faut aussi pointer qu'il n'y a pas d'hommes suffisamment en GRS et en danse, quoi. Donc, le travail de développement d'une identité ouverte dans le sport, aux filles comme aux garçons, quel que soit le type de sport, il est à entraîner dès le plus jeune âge et dans l'esprit de tous les adultes. Donc, on a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Faire des entraînements et compétitions mixtes, faire passer les garçons et les filles par tous les rôles, attaque, défense, arbitre, gardien, gardienne, organisation, responsable matériel, etc. Et puis, éduquer à l'entraide et non à l'exclusion en situation de compétition. Il y a aussi à valoriser le sport qui n'est pas de compétition, c'est-à-dire vraiment travailler sur la coopération, l'entraide, et que la valeur attribuée à ces types de comportements soit aussi forte, en fait, pour fabriquer une culture du sport beaucoup moins excluante et beaucoup plus incluante.
Vaste programme. Merci à Violaine de l'association Égaligone.
Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée.
Je vous présente Bertrand !
La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ?
5, 6, 7, 8.
Championnat du monde.
Qui est pour ?
Bon, les gros lards,
comptez l'affaire sur quelle musique, votre chorégraphie ?
Like a candle in the wind.
Que de la merde dans la tête, en fait.
Allez, on s'arrête pas.
Tu es une grosse connasse.
Taisez, bande de gros lards.
Qu'est-ce que j'écris, là ?
Équipe de France.
Mais pourquoi pas les hommes dauphins ?
Non.
Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch, où un groupe d'hommes dépressifs s'essaye à la natation synchronisée, coaché par les magnifiques Virginie Efira et Leila Bekti. Pour terminer avec un peu de légèreté cette émission, avec des suggestions de sport inclusif, on a regardé un peu ce qu'il y avait et le premier nous a bien fait rigoler, il s'agit du Quidditch. Alors si vous avez vu ou lu Harry Potter, c'est le sport des sorciers et des sorcières. D'ailleurs à Poudlard, ça choque personne hein, que filles et garçons soient unis dans la même équipe. Même principe pour le Quidditch des moldus ou des non-sorciers, mais au lieu d'enfourcher un balai volant, les participants chevauchent des tubes en PVC. Allez voir des vidéos sur le net, c'est assez rigolo. Il y a même une Coupe du Monde. Le club le plus proche est à Lyon. Et puis, on parlait de patinage tout à l'heure, un sport de glisse pour toutes et tous, le roller derby. Le roller derby était exclusivement féminin depuis son origine dans les années 30. Aujourd'hui, il existe des équipes féminines et mixtes également. En gros, ça ressemble à du rugby sur patin à roulettes. Mais alors, je fais un gros raccourci, il faut aller lire les règles. Ici, ce qui est intéressant, c'est le côté équipe de filles avec l'obligation d'avoir un nom associé à son équipe et si possible un peu badass. À Mâcon, ce sont les Banana Split qui représentent le roller derby. Je vous invite à aller consulter leur compte Instagram, c'est assez rigolo et puis c'est frais, ça donne envie de s'engager dans une équipe. Et enfin, on a aussi repéré l'ultimate ou le flying disc, en gros le frisbee, un sport qui se joue en mixité. On vous laisse réfléchir à tout ça en musique avec notre hymne à nous pour les JO. Merci à vous trois, merci Joël.
Merci à vous.
Merci Michel.
Merci à toutes.
Merci Natacha.
Merci.
Merci à Jimmy à la technique.
Merci Jimmy.
On se retrouve en septembre. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de l'année pendant l'été pour bien être au taquet pour la rentrée. En attendant, lève-toi Barbara Pravi et Mel Matlouti.
Lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule. Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière, toi et moi. المستحيل.